et vous écoutez France Culture. Le crime ne paie pas, mais il distrait certainement. Alfred Hitchcock, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Il est un homme grâce à qui on peut passer en souplesse et avec le sourire des vannes pourries d'Alfred Hitchcock aux étonnements d'un voyageur planétaire nommé Rudyard Kipling et de ce dernier aux coulisses du Grand Guignol. Cet oiseau rare se nomme François Rivière. Il hante depuis 20 ans la lande des mauvais genres et il est ce soir notre invité. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir François Rivière.
Bonsoir.
Heureux, et c'est peu dire, de vous revoir à ce micro. Vous avez été souvent présent pour parler aussi bien, je dirais, d'Edgar P. Jacob que de Sherlock Holmes, de tout un tas de sujets variés. J'insiste sur le mot varié et sur l'importance de la variété. Et ben, je reprends un peu ce que j'ai dit. C'est qu'effectivement, grâce à vous, on va aller quand même des studios de l'Angleterre, des Cockney, et du studio hollywoodien jusqu'à l'Inde, au Japon, en passant par, et puis revenir après au Grand Guignol de la passe Chaptal. Donc, parce que vous avez effectivement une actualité en ce moment dense et fournie. Vous publiez aux éditions Payot, Épitaphe pour Alfred Hitchcock, aux éditions Bouquins Lafond, donc Le Parfum des Voyages de Rudyard Kipling. On parlera bien évidemment de quelqu'un qui est proche, un peu dans la mouvance de Kipling, qui est Talbot Mundi, dont Rivière Blanche réédite donc les Mystères de l'Inde en deux volumes. Et puis, on terminera avec Les Oiseaux de Nuit. On en avait déjà très très rapidement parlé, mais trop rapidement il y a quelques temps. Donc, les nouvelles de Maurice Level, une des figures clés du Grand Guignol, qui paraissent au Visage Vert. Donc, soyez le bienvenu à Mauvais Genre. C'est une actualité groupée, là. Vous avez...
Un tir groupé, oui, mais c'était pas vraiment prévu. Mais ce qui était prévu depuis un moment, c'était ce recueil de récits de voyage de Kipling, qui n'était pas vraiment ce qu'on appelle un écrivain voyageur. Enfin là, c'est un peu la publicité qui permet de coller les idées, mais qui était, quand il est devenu reporter en Inde, au moment où il était également journaliste et déjà écrivain, qui est un personnage totalement hors du commun, enfin qui a inventé un espèce de genre, justement, qui est le reportage, je dirais que c'est un peu, enfin je crois que je le dis dans la préface du livre, c'est un peu Tintin en Amérique et Tintin au Japon et après Tintin en Égypte d'ailleurs, où il faisait je crois du renseignement d'ailleurs dans les années 1912-13. Donc c'est un personnage qui m'a toujours plu, moi j'ai eu l'occasion d'écrire sur lui, autour de lui. Et là, je trouvais que c'était l'occasion, une occasion qu'on provoque toujours, de refaire parler de lui à travers ses récits de voyage qui n'avaient pas été réimprimés en France depuis un siècle.
Très bien. Merci d'avoir rompu ce silence, donc, avec une préface qui s'appelle « Les humeurs du Dalmatien ». On n'en dit pas plus et on verra plus tard comment on en est arrivé à appeler Kipling le Dalmatien. Philippe Rouillet est là, bonsoir.
Bonsoir.
Alors
bonsoir.
Philippe Rouillet est là surtout et d'abord et avant tout pour parler d'Alfred Hitchcock.
Voilà, et moi j'ai quand même dans ma valise un cinéaste voyageur qui était William Friedkin, voilà, dont sort en ce moment aux éditions La Rabia, un livre sur le tournage de Sorcerers, appelé Un cinéaste sur le toit du monde. C'est Samuel Blumenfeld qui a fait ça et en fait il a été interviewé tous les gens qui ont participé à cette aventure qui sont encore vivants. Un certain nombre. Alors, on avait déjà le récit du tournage du film par Friedkin dans son autobiographie Friedkin Connection, mais là, il y a une sorte de contre-champ. On était voir les scénaristes, les producteurs, etc. Et c'est aussi un joli petit livre avec énormément de documents, de photos de repérage notamment, de pages de scénario. Donc, c'est édité par La Rabia.
Par l'Arabia. François Rivière, vous êtes un lecteur de Friedkin, mais un amateur de Sorcerer et de Friedkin.
Sorcerer, on parle bien du film de Michael Reeves. Oui.
Friedkin.
Ah oui, de Friedkin, oui.
Sorcerer, non, mais Sorcerer, je voulais le savoir, convoi de la peur.
Je connais un film qui s'appelle Sorcerer, qui est un jeune cinéaste mort trop tôt. Friedkin, qui est un personnage d'une grande culture, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Jean Moreau, qui m'a parlé de lui, parce qu'il lui a appris beaucoup de choses, en fait. Il lui a fait lire pas mal de livres, elle a connu un peu cet univers qui était le sien, mais je peux pas dire que je suis un spécialiste de Friedkin, hein, et de ses de son œuvre, sinon peut-être par le biais de Dominique Dune, qui était un ami.
Dominique Dune, qui est de nouveau d'actualité.
Oui, qui revient dans l'actualité.
On verra tout à l'heure, voilà. Puisqu'il y a un ouvrage qui paraît chez Séguier que vous avez postfacé, François Rivière. Jean-Luc Rivera, bonsoir.
Bonsoir.
Avez-vous une actualité, Jean-Luc Rivera? La question que l'on pose toujours en ouverture de cette émission.
L'actualité, non.
Quelle est l'actualité de Jean-Luc Rivera?
C'est pour ça que je me réjouis de parler de Talbot Mundi, l'une des grandes admirations de Jacques Bergier, qui avait un goût très sûr en matière de romancier.
Voilà, mais effectivement, grâce à Rivière Blanche, eh bien, c'est le grand retour de Talbot Mundi. On va voir qui était ce personnage et en quoi il s'intègre parfaitement à notre programme de ce soir. Mais en attendant, eh bien, ouvrons le livre, l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et quelle est la lettre? Quelle est la lettre ce soir,
Céline? La lettre de ce soir est la lettre M comme Margolis, Stéphane Margolis.
C'est un jardin d'ombre, je n'ai pas de soleil et du coup j'ai énormément de fougères, de fatsias, d'aralias, de capillaires, de lierres, etc.
Comment est-ce que vous ressentez les plantes? Est-ce que vous avez une relation particulière avec les fleurs, les plantes, les arbres?
Bah déjà je suis né au mois de mai, donc moi dès que je vois des bourgeons, des jeunes pousses, etc., ça me... les crosses de fougères, j'adore ça. Et puis en étudiant l'Ikebana, j'ai été au lycée agricole. Enfin oui, j'adore les plantes.
Alors à vos pieds, ce n'est pas une plante qu'on a, c'est une tête de cheval. Et derrière, je vois des vases qui représentent aussi des chevaux à l'infini. Je ne sais pas, il y en a une centaine apparemment. Mmh. Donc que fait cette tête de cheval ici?
Je recherche des objets, des céramiques, des plantes insolites. C'est les objets qui m'interpellent, qui m'attirent. Et du coup, bon, j'ai pas forcément de projet quand je les achète, mais petit à petit, l'idée mûrit. Et voilà, ça peut prendre un an, trois ans, mais ça trouve toujours son utilité.
De l'art de l'Ikebana, Stéphane Margolis a gardé le goût des plantes, bien sûr, mais aussi celui de l'assemblage. Il aime ainsi réunir des éléments qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux, mais qui vont pourtant donner lieu à une composition unique. Ce chasseur de trésors qu'on peut croiser aussi bien au marché aux puces, au détour d'un chemin de campagne ou au marché aux poissons au Japon, a le regard qui erre, toujours en quête d'une céramique, essentiellement des vases, des contenants ou d'objets insolites et de plantes exotiques. Puis, en les réunissant, il révèle aux objets leur nouvelle nature, devenant totem, animal chimérique ou rêverie poétique. Car le surréalisme n'est jamais loin quand on se trouve face à une œuvre de Stéphane Margolis. Il n'y a qu'à regarder le titre de ses œuvres, clin d'œil aux matériaux utilisés, aux couleurs, aux formes, le cri du cœur, branche d'arbre aux yeux clairs, créature abyssale. On retrouve André Breton, le cinéma japonais surréaliste des années 60 aussi, deux références essentielles dans l'univers de l'artiste. Mais ce qui tout à coup interpelle dans l'atelier de Stéphane Margolis où je me suis rendue, c'est une photo d'une de ses œuvres intitulée « Bœuf carotte ».
J'avais commencé avec l'œuf mimosa, parce qu'il y a beaucoup de mimosa dans le sud de la France, ailleurs chez mes parents, là où je fais aussi mes photos. Et en général, comme je travaille avec des plantes exotiques qui sont très graphiques, je voyais pas comment utiliser le mimosa. Et puis d'un seul coup, j'ai eu l'idée de faire une recette surréaliste avec des coquilles d'œufs et des grandes branches de mimosa.
Donc et la pièce s'appelait œuf mimosa.
Œuf mimosa, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer les bonnes recettes françaises. Avant de photographier la pièce, j'étais assez sûr de moi en disant oui, j'ai commandé une tête de bœuf pour faire ma recette bœuf carotte. Et une fois quand je suis allé la chercher chez le boucher, je me suis retrouvé avec une tête de peut-être 30 kilos sur le siège du passager dans la voiture. Et là, j'étais beaucoup moins fier. Donc j'ai mis des gants parce que manipuler c'était quand même pas évident. Je ne suis pas bouché et j'ai La photo s'est faite assez rapidement, en fait, tellement c'était pas terrible à manipuler, mais en même temps, c'est bien de faire aussi des installations qui soient pas toujours toujours très esthétiques, même dérangeantes ou même répulsives. Il y a certaines pièces où j'ai utilisé juste une pour un totem, j'ai utilisé une langue de mouton ou une queue de thon, une queue d'espadon, un poulpe, une murène, pour les mettre en scène avec de la céramique.
Mais alors, pour finir sur notre bœuf carotte, cette tête de bœuf, vous l'avez agrémentée de quoi ?
Eh ben, je lui ai simplement mis une botte de carottes fraîches dans la bouche, dans la gueule.
Pour découvrir les bœufs carottes, gentil n'a qu'un œil, inquiétante étrangeté et autres œuvres de Stéphane Margolis, rendez-vous sur son site internet www.stéphanemargolis.com. Pour les Parisiens, vous pouvez vous rendre place des Vosges jusqu'au 30 mai. Une de ses pièces y est exposée aux côtés de celle de l'artiste Mathias Kiss. Alors c'est une œuvre énigmatique, entièrement pétrifiée, car Stéphane Margolis pratique aussi l'art de la pétrification. Il laisse reposer des objets au fond d'une grotte humide en Auvergne. La nature fait alors son travail, recouvre le tout d'une couche de calcaire, important ainsi sa contribution à l'univers de Stéphane Margolis. Et pour voir cette pièce, allez sur son site car ce sont des visites privées et sur rendez-vous.
Merci Céline pour cette entrée. Stéphane Margolis de notre encyclopédie pratique des mauvais ordres. François Rivière, vous êtes quelle est votre réaction face aux ikebanas contemporains?
J'étais en train de me dire qu'Alfred Hitchcock avait un côté pétrifié permanent. Quoi. C'était impassible, impénétrable, presque surréaliste lui-même. D'ailleurs, il a beaucoup aimé l'œuvre de Salvador Dali au point de lui demander de faire la séquence de rêve dans la maison de Dr. Edwards, qui a été un peu coupée d'ailleurs par la production au montage, si je puis dire. Et dans sa collection personnelle, enfin sa collection privée, enfin chez lui, il avait pas mal de toiles surréalistes, enfin outre les toiles de Walter Sickert, impressionnantes.
Ça, oui.
Les titres font penser à des titres de films d'Hitchcock.
Très bien, ben j'imagine bien Hitchcock d'ailleurs mettant dans la loge d'une diva le bœuf avec les carottes sortant du nez. Là,
on va en parler à ces
plaisanteries dont nous allons parler, dont le maître Hitchcock était un fervent. L'heure est venue maintenant dans Mauvais Genre sur France Culture de nous plonger, de nous immerger dans l'univers de François Rivière et d'abord Alfred Hitchcock. Musique, un choix de Laurent Polleret en ouverture de cette playlist ce soir de Mauvais Genre. Alors, épitaphe pour Alfred Hitchcock, donc c'est l'ouvrage que vous publiez, François Rivière, chez Payot. Il y avait déjà eu un clin d'œil hitchcockien il y a 2 ans, Un garçon disparaît.
Oui, dans le titre, effectivement. Voilà. J'ai toujours adoré les titres, même quand ils ne sont pas des Hitchcock, puisque ce sont des titres français de... Même aussi les titres originaux, bien sûr, c'est sûr que Vertigo, c'est magnifique, c'est beaucoup plus beau que Sueur Froide. Mais Psycho, finalement, c'est un des plus beaux titres de film qui soit, mais il fallait encore le trouver, il fallait déjà tourner le film. Mais effectivement, oui, la disparition, il se trouve que Une femme disparaît est un de mes films préférés, enfin, d'Hitchcock. que j'ai vu à une époque où j'étais loin d'avoir tout vu, parce que c'était très difficile. Hein. Je suis d'une génération qui a eu un peu de mal à voir les films d'Hitchcock, enfin certains, La Corde, je sais que j'ai mis un temps fou avant de voir La Corde, enfin, un après-midi, au cinéma des Galeries à Bruxelles. Mm-hmm. Ça, je me reviens très bien. Je sais que
Bruxelles était la Mecque de tous les cinéphiles transgressifs.
Oui, il est ressorti là-bas avant, Paris, curieusement, mais tout ça, c'est pas très vieux, hein. C'était dans les années 80. Le premier que j'ai vu, c'est Le Crime était presque parfait, dans la salle du casino de Vernet-les-Bains. Vernet-les-Bains, qui était la station thermale où Kipling se rendait souvent vers la fin de sa vie.
Bon, je referme la parenthèse.
Oui, tout se tient. Tout est dans tout. Et ça m'avait profondément marqué. Alors que c'est pas le meilleur film d'Hitchcock. Mais je trouvais cette façon que Hitchcock avait, et ça c'est pas moi qui m'en suis fait la réflexion sur le moment, parce que j'avais 13 ans, mais Chabrol un jour a dit que Hitchcock avait une façon très personnelle, très originale de filmer le théâtre. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de mettre des choses autour pour aérer la pièce qu'il filmait, au contraire, il concentrait tout pour qu'on soit dans une ambiance claustrophobique. Et ça fonctionnait très bien, hein, que ce soit la Corde, c'est presque trop, je crois, La Corde, parce que tous les gens qui ont assisté ou participé au tournage ont dit que c'était une histoire de fou, quoi. C'est machin qui bougeait autour d'eux, enfin les marques partout, etc. Sauf que l'effet produit
est magique,
c'est magique, et c'est ce que Hitchcock voulait, bien entendu, même terroriser, enfin ça, le fait de terroriser les acteurs, ça c'est un truc qu'il pratiquait beaucoup, quoi, quitte à donner une paire de claques à une actrice avant qu'elle tourne la scène, ou murmurer des horreurs dans les oreilles d'autres actrices pour les déstabiliser complètement, alors peut-être leur faire oublier qu'elles étaient en train de tourner une scène qu'elles avaient répétée longuement, comme celle qui lui a dit un jour, maître, je ne sais pas comment faire, elle a dit, it's only a movie, enfin bon, c'est connu, mais c'est n'empêche que ça le définit un peu quand même.
Alors, épitaphe pour Alfred Hitchcock, j'aurais pu s'appeler aussi tombeau pour Alfred Hitchcock, au sens où les gens de la Renaissance faisaient des tombeaux pour les grandes figures qu'ils admiraient. C'est un ouvrage qui fait 137 pages, donc extrêmement ramassé, extrêmement dense, très court, mais très incisif et très, très fort, qui appartient à cette catégorie des ouvrages que vous publiez, qui, je dirais, ce sont des essais qui sont peut-être en définitive vos ouvrages les plus romanesques. J'ai pensé en lisant à cet ouvrage que vous aviez publié sur Patricia Highsmith ou sur Enid Blyton, qui se veulent un peu comme des portraits, des monographies, des évocations biographiques, et qui deviennent tout naturellement un peu des fictions de personnages un peu fabuleux. Alors, quelle était l'intention derrière cet épitaphe qui est plutôt réjouissant que morbide?
Ben, j'étais un peu inquiet à l'idée de faire un livre sur Hitchcock quand on me l'a demandé, parce que c'est une commande en fait.
Une commande qui ne s'intègre pas dans une collection.
Qui devait à l'origine s'intégrer dans une collection.
Ah, donc vous avez transgressé les cadres de la
livres
collection.
Sur l'humeur, l'humour. Quoi. Et j'ai annoncé à l'éditeur que les fameuses vannes d'Hitchcock, pourries ou non, n'étaient pas de lui. Elles étaient écrites par un humoriste qui s'appelait James Allardyce, qui a écrit toutes les présentations des téléfilms et puis pas mal de choses, et puis articles signés Hitchcock, etc. Bon, qui a été quand même, qui a beaucoup utilisé le côté publicitaire. C'est un showman, il avait besoin justement de plumes pour exister un peu plus aux yeux du public. Et donc, j'ai fait autre chose, quoi. Je me suis mis dans l'idée. Alors, là aussi, je savais très bien qu'on a publié tellement de biographies, de livres sur lui.
Oui, parce qu'on peut faire, avec Hitchcock, on a pu faire, bon, Truffaut l'a montré, un livre d'entretien, c'est assez célèbre. Ouais. On peut faire d'énormes biographies à l'américaine où on tente de pister Hitchcock heure par heure tout au long de sa vie d'artiste à Londres, à New York et ailleurs. Spoto, mais vous,
moi, celle qui m'a le plus séduit, enfin, qui m'a vraiment fasciné, c'est celle de Donald Spoto. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, parler de ça avec lui, mais enfin, peu importe. Effectivement, là, Donald Spoto, oui. Mais la biographie officielle d'Hitchcock était parue juste avant sa mort, je crois, qui était de John Russell Taylor, qui était un ami anglais qui avait le droit d'assister au tournage, etc., qui était venu assister notamment au tournage de Family Plot. Elle ne donne pas grand-chose. Au fond, sa vie, on la connaît, on connaît des anecdotes, beaucoup d'anecdotes sur sa vie et sur son métier, enfin sur sa manière de faire, mais au fond sa vie, sauf que moi j'ai pas du tout voulu écrire la biographie, etc.
J'entends bien, mais alors, je vais reprendre ce dont nous parlait Céline Duchesnay il y a quelques minutes, c'est-à-dire l'ikebana, c'est-à-dire l'art de composer le bouquet et l'art d'assembler, je dirais, des éléments significatifs en un ensemble qu'il est encore plus, je veux dire que le tout vaut plus que la somme des parties. C'est-à-dire, de même qu'Hitchcock avait fait son autoportrait avec quelques traits, des grosses joues, le nez, le front, vous avez prélevé à l'intérieur de cet extraordinaire ensemble qu'est sa vie d'anecdotes, quelques anecdotes, comme on prélève des fleurs, et vous avez fait une sorte de bouquet d'anecdotes, mais il se trouve qu'elles sont toutes extrêmement caractéristiques, très étonnantes, et qu'elles composent une espèce de portrait d'Hitchcock, presque de portrait robot, qui est beaucoup plus puissant, je dirais, et intense, que une sorte de reconstitution qui, elle, sent toujours la sueur, est toujours plus laborieuse.
D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est une espèce de portrait de famille, sachant que dans cette portrait de famille, il y a les personnages réels et les personnages de fiction. C'est-à-dire qu'il y a un personnage énorme pour moi, enfin, dans la constitution même du personnage Hitchcock, c'est sa mère, cette victorienne comme toutes les femmes, ou presque toutes les mères victoriennes, et en plus une cockney, enfin, femme de milieu populaire, mais très avec un tempérament très fort, comme on en trouve dans des romans victoriens par exemple, et même dans des romans beaucoup plus modernes. Je pense à Ruth Rendell, que j'ai bien connu et qui écrivait des choses avec des personnages de femmes de virago absolument hallucinantes. Il y a la mère, mais la mère, elle va se métamorphoser jusqu'à devenir Mrs. Bates, la mère de Norman Bates en psychose, quoi, qui notamment la mère d'Anthony Perkins, qu'il l'a tué pour devenir sa mère, quoi. Et au fond, j'ai l'impression que Hitchcock est un peu devenu sa mère aussi au fil du temps. La mère de Claude Rains dans Les Enchaînés, enfin, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui est quand même...
Mais même la mère de Cary Grant dans North by Northwest. Hein, je veux dire, il y a tout le cinéma et il y a toute la gamme des mères.
Il y en a plein de mères, oui.
Et on parlait des Enchaînés. C'est vrai que cette femme qui a un côté un peu de rapace, qui vit toujours au lit avec un petit bonnet en dentelle, la manière qu'a Hitchcock de faire basculer le personnage dans la violence et dans l'autorité par un simple geste, elle allume une cigarette au lit. À un moment, elle est toujours là un peu souffreteuse et à un moment, elle sort une clope, elle l'allume, elle se met à la fumer. Et là, le personnage brusquement se déploie dans sa noirceur. Ça, c'est effectivement, là on a la virago.
Oui, alors là, c'est la dimension, que Hitchcock ajoute, puisque c'est dans un film, son film, alors que dans la vie réelle, la maman d'Hitchcock insistait pour qu'il vienne tous les soirs s'asseoir au banc de son lit, alors même qu'il était déjà fiancé à Alma, pour lui raconter ce qu'il avait fait dans la journée. Enfin, non, il y a vraiment une transposition. Bon, alors, il n'y a pas que ça, mais il y a pas mal de personnages. Il y a aussi la mère dans l'ombre d'un doute, cette femme qui est très belle, enfin, magnifique, je veux dire, comme personnage, mais qui ignore évidemment que son frère est un horrible... Joseph Cotten est un horrible assassin de veuve, qui est la mère de Charlie, qui est l'héroïne. Mais, c'est un très beau film. C'était le film préféré d'Hitchcock. Enfin, c'est ce qu'il disait, en tout cas. Et il se trouve qu'Hitchcock a donné à cette femme, donc, dans ce film, le nom de sa propre mère, Emma, le prénom Emma Hitchcock, qui est morte, d'ailleurs, pendant le tournage. Enfin, il y a des tas de trucs comme ça qui se bousculent.
François Rivière, je me demandais, est-ce que vous ne trouvez pas que... Enfin, on va pas de la psychanalyse de comptoir, mais est-ce qu'avec Alma, sa femme, c'était pas une sorte de substitut de la mère qu'il a cherché ?
Il l'appelait pas maman, comme ça arrive dans certains milieux populaires français, mais il l'appelait la madame. Ça donne un peu cette idée, effectivement. Oui, dans la jeune. Quand la pauvre Alma a eu, pendant le tournage de Frenzy, a eu une attaque cardiaque terrible, il était décomposé, enfin, il était presque mort.
Depuis l'enfance, je suis différent des autres. Je ne vois pas comme les autres voient. Je n'ai avec eux aucune passion commune. Je n'associe ma douleur à aucune douleur connue et n'ai jamais pu partager la joie de tous. Tout ce que j'ai aimé, j'ai été le seul à l'aimer. Alors, dans mon enfance, au seuil d'une vie pleine de tumulte, a peu à peu grandi le mystère qui, des abîmes du bien et du mal, n'a cessé de me posséder. Du torrent et de la fontaine, du flanc rougeâtre de la montagne, du soleil qui brillait de l'or de l'automne, de l'éclair jailli du ciel et qui m'a frôlé de son vol, du tonnerre et de l'orage, et de ce nuage qui, au cœur de l'azur, a revêtu pour moi l'apparence d'un démon. Thank you. C'est un poème d'Edgar Allan Poe, titré « Seul » et traduit par vous, François Rivière, et qui figure quasi au tout début de cet essai sur Hitchcock. C'est une manière de caractériser le personnage par poème interposé.
Oui, là j'ai repris un poème qui est très connu hein, d'Edgar Poe, parce que je pense que dans son enfance et son adolescence, Hitchcock a été totalement séduit par la poésie, puisqu'il lisait de la poésie de Poe, et qu'il a peut-être, alors là c'est moi qui ai imaginé ça, on n'a absolument pas la preuve de la chose, qu'il ait pu voir le petit film de Griffith sur qui raconte la vie d'Edgar Poe. Qui était sous-titré biopic, qui est peut-être le premier même biopic de l'histoire du cinéma, et qui a apparemment marqué les foules, parce que c'est le genre de petit film de 10 minutes qui était projeté un peu partout, et à Londres notamment, pendant son adolescence, Hitchcock a vu pas mal de ses premiers films, de même qu'il allait voir des spectacles, enfin, qu'il allait au théâtre, etc., enfin, qu'il était marqué par des tas de choses, et effectivement, je trouve que ça les correspond bien, alors ça amorce un peu une espèce de mini-anthologie de textes, qui sont surtout, après, des textes, des extraits de romans ou de pièces que Hitchcock a adapté, parce que je trouve aussi c'était un peu pas le seul angle, mais enfin un des, enfin si je peux en citer plusieurs, il y en a au moins deux angles sous lesquels je voulais un peu présenter Hitchcock, c'est le côté littéraire, parce que c'était un grand lecteur, lui et sa femme lisaient énormément, et il a bien sûr les adaptations qu'il a données sont pas forcément le résultat de ses lectures, mais quand même en grande partie. Et les auteurs qu'il a adaptés, là aussi,
parce qu'il y a la filmographie et la télévision, Alfred Hitchcock présente.
Oui, il a sélectionné les nouvelles. Alors, comme il était un grand lecteur de nouvelles, il s'est fait très très plaisir quand il a fait sa série Alfred Hitchcock présente, d'adapter des nouvelles d'auteurs en plus qui étaient quelquefois un peu oubliés. Je pense à certains Alfred Mason. Qui écrivait des nouvelles magnifiques, mais tout ça à l'époque, la fin de l'époque victorienne, et voilà, il y a le côté littéraire d'Hitchcock quand même, qui n'est pas inintéressant.
Jean-Luc Rivera.
Est-ce qui m'a frappé en lisant votre livre, parce que j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose de la biographie d'Alfred Hitchcock, j'ai vu comme tout le monde une bonne partie de ses films que j'ai adorés, c'est qu'en fait vous traitez la vie de Hitchcock comme Hitchcock lui-même traite ses personnages dans ses films, parce que vous commencez avec une anecdote très sympathique sur le personnage. Quand il y a le tournage des oiseaux, il s'arrête, il signe, il fait une dédicace et un dessin à un gamin très timide. Et donc, on lit la lettre de remerciement du professeur. Donc, on commence, c'est vraiment le personnage sympathique tel qu'on le voyait dans Alfred Hitchcock présente, où il était là avec son petit sourire en coin, etc. Et puis ensuite, on découvre au fur et à mesure du film une autre réalité sur le personnage, avec on a abordé tout à l'heure ces practical jokes, et on va en parler à nouveau, et puis tout son complexe d'infériorité qui manifestement le travaille toute sa vie, et cet aspect totalement dictatorial lorsqu'il tourne ses films.
François Rivière.
Oui, enfin, ce qu'on peut dire sans beaucoup d'invention et beaucoup d'originalité, c'est qu'il était très mal dans sa peau, qu'il souffrait effectivement de son apparence physique qui était terrible. Lui-même disait qu'il ressemblait à un croque-mort, il avait des joues qui ressemblaient à des steaks saignants. Il était vraiment... il en a souffert beaucoup, dans la mesure où c'était un garçon très sensible, et j'utilise même le terme sensible dans d'autres sens que celui qu'on croit en général, puisqu'il a avoué un jour qu'il était devenu hétérosexuel le jour où il avait rencontré sa future femme. Et donc c'était quelqu'un de très malheureux d'une certaine manière, il l'a montré tout le long de sa vie, et on a justement beaucoup d'anecdotes, parce que bien sûr, et plus on avance dans le temps, et plus on débusque maintenant les perversions, les côtés sombres des personnages, des créateurs, comme si on voulait se venger d'ailleurs un peu de leur talent, de leur génie. Effectivement, oui, c'est quelqu'un qui était pas bien, dans sa peau, et qui est du coup devenu dictatorial, qui est devenu très autoritaire, et qui a abusé un peu de ça, mais dans la mesure où il était devenu, et je raconte rapidement comment il est devenu ce qu'il était, c'est-à-dire celui qui va chercher les cafés dans les studios.
Il était titreur, il faisait des intertitres, oui, des cartons.
Oui, comme il dessinait bien, il était devenu titreur, il s'amusait, puis il est devenu assistant, et puis enfin metteur en scène. Ça a été un combat quand même.
Oui, il était malin, il savait se vendre, il avait repéré que cette firme allait s'installer à Londres, et comme il avait ce talent de dessin, Marin, il a été proposé ses services. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'introverti, de complexé, de timide, c'est en même temps, c'est les deux. Hein. Et toute sa vie, c'est ça. C'est à la fois quelqu'un qui supporte pas son apparence physique et qui fait de son apparence physique un symbole de son œuvre. Puisque Alfred Hitchcock présente, avant d'être lui, c'est carrément sa silhouette dessinée, voire même son visage dessiné.
Il a pris tous les risques et il a été au-delà même de ce qu'on peut imaginer, effectivement, en devenant une espèce de silhouette connue dans le monde entier. Enfin, Chaplin et lui sont sûrement les deux Anglais, Cockney comme par hasard, qui sont les plus connus, enfin, dont l'apparence physique est la plus connue, enfin, la plus repérée.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que Chaplin, lui, savait ça. Quand il disait, Chaplin disait, moi, je fais pas tellement d'emballage de mise en scène, puisque ce qui est intéressant, c'est moi qui est dedans, l'image. Voilà. Alors que.
Évidemment, il était très beau, alors que Hitchcock était.
Voilà, Hitchcock, mais justement, grâce à son humour et tout ça. Et c'est vrai que au début l'anecdote, vous avez raison de dire que il paraît très sympathique avec cet enfant, sauf qu'on voit très vite comment il repère en cet enfant une espèce de double de lui-même et que c'est à lui-même qu'il se fait ce cadeau au fait.
Avec François Rivière ce soir pour évoquer notamment Épitaphe pour Alfred Hitchcock, ouvrage qu'il publie aux éditions Payot. Alors, il y a cet aspect de ce que j'appelais un peu cavalièrement les vannes pourries en ouverture d'émission, qu'on appellera plus noblement et plus exactement les practical jokes que pratiquait donc Sir Alfred. Comment peut-on les définir, ces practical jokes, François Rivière ?
Comme des choses qui le démangeaient finalement pour se venger un peu d'une société dans laquelle il évoluait à différents, enfin surtout à son niveau à lui qui était un niveau très populaire dans un premier temps. Le premier souvenir qu'on a, enfin c'est celui de son passage dans un collège de jésuites où il était très très malheureux parce qu'évidemment tous les garçons se fichaient de lui parce qu'il était énorme, il ressemblait à un cochon et le premier sale blague qu'il a faite, c'est de balancer un pétard allumé dans le pantalon d'un de ses copains, enfin d'un des élèves. On dit pas s'il a été viré du collège, mais c'est pas impossible. Et puis après, ça a continué pendant sa carrière de metteur en scène. Enfin, quand il a commencé à exister quand même comme en tant que metteur en scène et à rencontrer du monde et à connaître des acteurs, il y a une blague qui a fait un peu l'histoire. Enfin, c'est ce que raconte d'ailleurs un acteur qui a écrit ses mémoires, qui raconte comment un soir où Gérald Dumouriez, donc le papa de Daphné, qui était le grand comédien très célèbre, très populaire de l'époque édouardienne, pendant qu'il jouait en scène, Hitchcock a réussi à faire entrer un cheval de trait dans sa loge avec écrit sur un petit panneau Joyeux Noël et Bonne Année. Et on n'a jamais su, et comme dit, je crois que c'est Cédric Hardwick qui a écrit ses mémoires, et qui dit, on n'a jamais su comment il avait fait. Parce qu'il aimait aussi quand même aller un peu au-delà du possible, enfin. Mais c'était vraiment les mauvaises farces, quoi.
Et pour aussi, se faire remarquer, enfin. Ce technicien à qui Hitchcock offre une somme rondelette pour passer une nuit dans le studio, mais il faut qu'il passe une nuit, il est menotté. Et avant, évidemment, Hitchcock, sans lui dire, lui offre
un verre.
Un verre, mais le problème, c'est que le verre contient un laxatif. Voilà, là, c'est quand même des mises en scène. C'est véritablement des mises en scène.
C'est la mise en scène.
C'est plus qu'une vanne.
C'est un peu le prélude à ce qu'il va faire aux deux acteurs de 39 marches, hein, qui sont menottés, bon, ils sont supposés être menottés pendant une nuit entière. Hein, bon, et on imagine effectivement si un besoin pressant se fait sentir, ce que ça peut donner. Oui, c'est le côté oui, méchant garçon. Enfin, il se définissait comme ça. Au fond, c'est le côté. Justement, le garçon milieu populaire qui se permet des choses, qui se moque bien, qui se venge au fond de ces gens qui le dépassent, qui sont beaux alors que lui il l'est pas, qui sont célèbres alors que lui il l'est pas forcément encore, et même devenu célèbre, il sera souvent ulcéré par l'attitude des gens qui avec lesquels à qui il a affaire. Bon, on peut aller jusqu'à Tippi Hedren, qui est un peu le truc qui a explosé littéralement. On a presque fait un film d'ailleurs là-dessus, mm-hmm. entièrement là-dessus. La pire chose d'ailleurs qu'il a reproché à Tippi Hedren, dont il était amoureux, enfin éperdu, etc., qu'il a violenté. Pendant le tournage des oiseaux, grâce à des oiseaux, des volatiles, les volatiles étant une chose qui l'obsédait depuis l'enfance, puisque son père était volailler, et dont il a dit, elle a fait la pire chose qu'on pouvait me faire, elle a évoqué mon poids. Effectivement, c'est aussi de l'humour, hein, parce que il était quand même pas non plus dupe de ce qu'il représentait aux yeux des gens. Mais je sais pas, c'est compliqué, parce que moi, effectivement, il s'agit pas de faire de la psychanalyse, à 3,50 francs, mais je pense qu'il y a une douleur quand même énorme, mais dont il s'est amusé. Bon, quand il était un peu plus tôt dans sa carrière, il faisait un truc terrifiant dans le studio où il tournait. Il arrivait déguisé, enfin préparé, si on peut dire, en marin siffleur, c'est-à-dire qu'il il se dénudait l'abdomen. Qu'il avait assez imposant, il se le maquillait avec du rouge à lèvres pour créer une espèce de lèvres qui, et il se mettait à siffler tout en faisant onduler son ventre d'une manière obscène, et ça mettait tout le monde mal à l'aise, parce que c'est ça aussi le ressort du truc, c'est de mettre les gens mal à l'aise, quoi, leur faire peur et les mettre mal à l'aise.
How do you do, boys and girls? My name is Alfred Hitchcock, and I'm delighted to find that you believe in ghosts too. After all, they believe in you, so it is only common courtesy and politeness to return the favor. As a matter of fact, I tell them human stories all the time, and they enjoy them immensely. Now, of course, the best way to listen to ghost stories is with the lights out. There is nothing like a dark room to attract ghosts, and you may like to have some of our mutual friends come and listen with you.
Voilà la voix de Sir Alfred, qui a fini quand même de le signaler, François Rivière, commandeur de l'Empire britannique.
Tardivement. La reine l'avait un peu oublié, oui.
Mais qui, avant cela, Philippe Pouillet, je crois, a fait quelques films.
Oui, alors, il y a une anecdote que je rapprocherai quand même, vous la citez dans votre livre, de ces blagues, mais c'est l'envers de ces blagues. C'est quand il tourne Frenzy à Londres, il y a une scène sur un marché, qui est le marché où il allait quand il était enfant, et qu'il suivait son père, donc qui était marchand de volailles. Il était collé dans la carriole, il disait qu'il regardait les bananes mûrir, c'est dire l'action. Et voilà, il y a un marchand qui est là, qui était, je pense, apprenti quand il était petit, qui le reconnaît. Et c'est une sorte de, je pense, de revanche, de satisfaction de revenir là avec la position d'être le grand cinéaste qui va être anobli. Alors, moi, je pense que cet humour-là est pas dissociable de son cinéma. Toutes ces blagues qu'il faisait dans la vie, je veux dire, il y a un côté blague dans Psychose qui est un film à la fois terrifiant et en même temps, il y a toujours cette espèce d'ironie. C'est pas un hasard si vous préférez Une femme disparaît. Dans Une femme disparaît, comme dans toute cette période anglaise, il cultive cet humour-là. C'est quand même quelqu'un qui va faire tout un film sur un cadavre avec des enfants, où est le cadavre, etc. Et même quand c'est L'homme qui en savait trop, on va au concert et c'est un morceau de cymbale qui commande le meurtre. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a cet aspect-là, et en même temps, j'allais dire, les cinéphiles purs et durs vont penser à un autre film que vous citiez tout à l'heure, qui est Vertigo, où alors là, c'est le comble du romantisme, c'est Madeleine, c'est Scotty, c'est la morte, voilà, qui revient, et c'est ça aussi le cinéma d'Hitchcock. Mais on se souvient de l'homme qui apparaît dans tous ses films, qui fait toujours une apparition. Alors au départ, c'est parce que soi-disant il manque un figurant, et puis finalement ça devient une sorte de gimmick, et son poids lui-même le met en scène dans Lifeboat, puisque c'est des gens qui sont dans un canot, et on se dit mais comment il va faire, est-ce qu'il va traverser à la nage devant le canot, non, et en fait il apparaît dans un journal sur un programme d'amaigrissement avec le fameux avant et après. Donc là encore il y a une sorte de mise en boîte, et je pense que votre livre est éclairant de tout cet aspect-là, de tout le côté Hitchcock, Chongontik, comme on dit.
Jean-Luc Rivera.
Une anecdote que j'ai adorée, où on voit qu'il était d'un humour féroce et qu'il aimait bien se venger, c'est lorsqu'on apprend qu'il a grimé Raymond Burr en David O. Selznick après s'être disputé avec lui et s'être brouillé avec lui. Et donc, le criminel allait traiter David O. Selznick. C'est fabuleux parce que en même temps, ça l'a trompé. Tout le monde à Hollywood savait.
Alors, Selznick,
bah
oui, on va en parler.
Parlons-en.
Il y a quand même, il est sorti, ouais, il est sorti pour Noël, hein, mais c'est grave.
C'est toujours Noël à mauvais
genre. C'est toujours Noël à mauvais genre. Il y a quand même un coffret formidable qui est sorti des quatre films de Hitchcock avec Selznick, hein, qui sont quatre films formidables. Ça commence avec Rebecca, il y a La maison du docteur Edwards que vous citiez tout à l'heure avec la scène de Dali, il y a Les Enchaînés qui est un chef-d'œuvre absolu, et après il y a Le procès Paradine qui est peut-être moins intéressant, mais qui est quand même ça fait un très bel ensemble. Alors, c'est des films qu'on avait dans des copies vraiment infectes, que là, enfin, on peut voir à la fois Blu-ray, DVD, et puis alors surtout, ils ont prévu, c'est chez Carlotta, ils ont des bonus très très bien. C'est-à-dire que pour chaque film, ils ont retrouvé les enregistrements des entretiens Hitchcock-Truffaut. Et ils sont commentés par Nicolas Saada. Et puis, alors, il y a un disque de bonus en plus, donc, sur sa relation avec Selznick. Et alors surtout, un truc, alors je ne sais pas si vous connaissez ça, François Rivière, c'est un ensemble de home movies de Hitchcock. C'est-à-dire que c'est 35 minutes de film de famille où il est, alors on le voit dans le parc, avec Patricia Hitchcock, mais dans le parc de bébés, faisant l'idiot. Et alors, il est quand même avec l'actrice de chantage. On le voit, c'est la pause. Il fait signe à un machinot. Il se met avec la fille et hop, il apprend et quand même il la retourne. On voit un peu sa culotte, quoi. Enfin, je veux dire, il apprend par les jambes, et là, il y a côté presque prédateur sexuel. Je suis pas sûr que ce genre de blague passerait tellement sur les plateaux hollywoodiens en ce moment.
Épitaphe pour Alfred Hitchcock, donc de François Rivière, notre invité de ce soir. Un mauvais genre sur France Culture, c'est aux éditions Payot. Deuxième volet de notre mauvais genre de ce soir avec François Rivière, les Indes mystérieuses et envoûtantes, partie prenante de l'Empire britannique dont on parlait tout à l'heure, Jean-Luc Rivera. Donc d'abord, Rudyard Kipling, Le Parfum des Voyages, l'édition est préfacée par François Rivière, et la préface s'appelle Les Humeurs du Dalmatien. On peut avoir quelques lumières sur la comparaison entre Kipling et un dalmatien.
Oui, oui, elle n'est pas de moi, elle est des collègues de Rudyard Kipling, qui, âgé de à peine 17 ans, revenu parce qu'il avait pas mal voyagé, enfin, fait la navette entre l'Inde où il était né, puisqu'il était né à Bombay, après il a été exilé pendant 5 ans dans le sud de l'Angleterre. Puis après, il est allé dans un collège. Enfin, son père l'a collé dans un collège terrifiant. Il a survécu. Et après, il est revenu en Inde, donc à 17 ans, à Lahore, où ses parents vivaient à ce moment-là. Son père était directeur du musée de Lahore, pour y devenir reporter, journaliste, reporter, un peu comme Tintin dans les albums d'Hergé. Il avait, comme tous les anglo-indiens, il y a un petit costume blanc, et comme il n'arrêtait pas de secouer sa plume après l'avoir trempé dans l'encrier, il était constellé de tachoirs, et les indiens un peu indolents qui l'entouraient dans cette rédaction surchauffée l'avaient surnommé le Dalmatien. Lui qui n'arrêtait pas d'écrire, hein, qui écrivait des contes et qui faisait des reportages.
Alors, Jean-Luc Rivera, votre lecture donc de ces voyages de Rudyard Kipling, parce qu'on voyage beaucoup. On voyage en Inde, on voyage au Japon, on voyage aux États-Unis, c'est donc le grand randonneur.
C'est un grand randonneur, et ce qui m'a frappé, c'est que en lisant ses lettres de marque, donc son voyage aux Indes en 1887, en novembre-décembre, c'est qu'en fait, c'est extrêmement moderne finalement. Parce que 80 ans avant que ne vienne la mode pour les jeunes d'aller se promener aux Indes, lui, il fait quasiment la même chose en se moquant des touristes qui vont le bec de cœur à la main. Lui, il est quasiment sac au dos en train de prendre des moyens vraisemblables qui vont du train indien à l'éléphant en passant par les tongas qui sont ces espèces de petites carrioles qui n'arrêtent pas de péter. Et il voyage vraiment avec au milieu de l'Inde très profonde dans des états du nord du Rajputana qui à l'époque sont encore tous gouvernés. Alors j'ai regardé, à l'époque il y avait le Rajputana, ça faisait 343 000 km² et il y avait quand même 23 états plus deux autres plus un district anglais, donc cette mosaïque de petits états, et il en décrit certains et il le fait en plus avec beaucoup d'humour. Moi ça m'a frappé, c'est vraiment extrêmement moderne finalement ce qu'il raconte.
François Rivière.
Oui, alors, il était anglo-indien, comme on disait à l'époque, pour les Anglais vivant en Inde, et donc il se sentait effectivement un peu au-dessus de ces touristes avec leurs guides, etc. Bon, qui avaient déjà le mérite de faire entre guillemets l'Inde à cette époque, même s'il n'y avait pas peut-être un gros risque, puisque c'était l'Inde appartenait à l'impératrice Victoria. Mais il avait un regard quoi là-dessus, un regard qui était un peu celui d'un affreux Jojo quand même, parce qu'il permettait de dire des choses. Il se sentait pas tellement anglais, il se sentait plus indien quand même. Donc ce regard d'affreux Jojo, c'était l'anglo-indien quoi qui visite son pays et qui se permet de dire des choses quelquefois et qui surtout raconte. Enfin, je crois que je dis à un moment dans la préface qu'il tend un micro en fait aux gens. Il fit parler les gens, c'est-à-dire qu'il écoutait beaucoup, en tout cas, ce que disaient les gens, il les interviewait, quoi. Et du coup, alors, c'était son métier de journaliste. Il était reporter pour deux publications. La Civile and Military Gazette, puis après le Pionnier, pour lesquels il a écrit ses premiers contes, hein, les simples contes des collines, ce sont des choses qu'il a publiées, parce qu'il finalement publiait aussi bien des contes que des reportages, les deux se mélangeant d'ailleurs un peu, hein, et finalement, oui, il avait un regard très, comme vous dites, moderne, quoi. Il avait une façon de décrire tout ça qui était assez moqueuse quand même, souvent, et les Anglais, enfin, les Indiens plutôt vivant d'une manière qui était quand même très folklorique à ses yeux, et puis il avait ce regard aussi sur l'occupant, sur les, notamment les militaires, enfin, les soldats, ces pauvres soldats qui suaient sous le soleil indien.
Oui. Et on retrouve chez lui cette dualité qu'il y a chez beaucoup d'Anglais de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a une admiration extrêmement profonde pour la civilisation indienne. La description de sa visite du musée de Jaipur est absolument fabuleuse de ce point de vue-là. Et donc, il est en admiration devant tous les accomplissements, aussi bien en matière de bâtiments que d'armes, etc. Et en même temps, il dit, avec nos fonctionnaires anglais qui vivent sur place et sont extrêmement dévoués, l'alliance des deux fait que ce pays progresse et c'est formidable, quelque part.
François Rivière.
Oui, mais il avait conscience que les Anglais apportaient quelque chose aux Indiens, ça c'est clair. Hein. Il était très conscient de la supériorité, enfin c'est ce qu'il disait, hein, je cite avec des guillemets, la supériorité de l'homme blanc sur le reste des races. Mais il se rendait compte de ce que si aujourd'hui les Indiens continuent à jouer au cricket, c'est quand même aussi parce que c'est une des choses que les Anglais leur ont apportées. Mais c'est toujours son point de vue était celui d'un Anglo-Indien. Enfin, je sais pas. Pour m'en dire mieux, parce qu'aujourd'hui on dirait plus ça. Enfin, anglo-indien, ça n'existe, le terme n'existe plus. C'était une occupation, mais une occupation, je dirais, assez intelligente quand même.
Et justement, cette modernité qui consiste à donner la parole, moi je me demande comment ça se fait que ces textes ont disparu pendant tant de temps. Parce qu'ils sont quand même étonnamment modernes, enfin.
Moi, je le pense depuis un certain temps. J'ai toujours trouvé ça étrange aussi. On a privilégié la fiction, mais quand on voit en plus à quel point ces textes sont complémentaires justement des fictions de Kipling. Cela dit, est-ce qu'on lit encore beaucoup les Simples Contes des Collines et d'autres recueils? Bon, même si maintenant ils ont été retraduits dans la Pléiade, je pense que ça n'est quand même pas tellement exploré. Ces textes de voyage, enfin, annoncent aussi un peu. Alors là. Sur le plan de la fiction, ce qui est peut-être pour moi le chef-d'œuvre de Kipling, qui est Kim, ce fabuleux roman d'apprentissage dans lequel un jeune, alors c'est un Irlando-Indien, Kim, qui va devenir espion, enfin qui va apprendre le grand jeu de l'espionnage en suivant un lama, c'est un livre sublime, qui a beaucoup marqué d'ailleurs des gens comme John le Carré ou d'autres. Et voilà, enfin bon.
Dont on peut recommander le Cahier de Lerne d'ailleurs, qui vient de lui être consacré.
Très beau Cahier de Lerne, oui.
Alors, on évoque Kipling, glissons sans problème Jean-Luc Rivard, à quelqu'un qui n'est pas un élève ni un disciple, mais enfin, qui se situe largement dans la périphérie de Kipling, c'est Talbot Mundi, je le répète, dans les éditions Rivière Blanche, publie donc deux volumes des Mystères de l'Inde. Le premier, c'est le Mahatma Gris, et le second, les Neuf Inconnus, Talbot Mundi.
Alors, Talbot Mundi, déjà, rien que sa vie est un roman en elle-même, parce que c'est un type qui a beaucoup voyagé à travers le monde entier, en changeant de nom. Chaque fois qu'il était criblé de dettes quelque part, il s'enfuyait dans un autre pays et changeait de nom. Il changeait aussi très fréquemment de femme. J'avoue que j'ai perdu le compte hein, de ses mariages, mais il y en a au moins 4 ou 5. Et en même temps, il s'est mis à écrire quand il est parti aux États-Unis. Il a commencé à travailler pour les fameux magazines de Frank Muncy, qui était parmi les plus grands de l'époque. Et comme il avait fait un passage assez long aux Indes, il a commencé à écrire sur les Indes. Et au milieu de du foisonnement de romans qu'il a écrits, il y a quand même un certain nombre de romans qui se dégagent, qui forment une sorte de grand cycle indien, dont le Mahatma Gris et les Neuf Inconnus, qui vont être suivis de deux autres, ne forme qu'une partie, et où on retrouve c'est l'Inde qui avait été qu'on avait commencé à connaître avec et à aimer avec Wilkie Collins en Angleterre, et puis avec Louis Jacolio
de langue dans le tombeau hindou,
et puis c'est surtout l'Inde de Louis Jacolio, c'est-à-dire cette Inde mystérieuse, science secrète, complot dans les montagnes du Tibet, la Gartha, etc. Et les Neuf Inconnus, c'est tout à fait ça. Il y a aussi la princesse Yasmini qui est dotée non seulement d'une beauté quasiment surnaturelle, mais aussi de pouvoirs tout aussi surnaturels, et qui veut rendre l'Inde indépendante pour devenir impératrice des Indes, bien entendu.
François Rivière, ça nous ramène aussi à un de vos amis, il y a longtemps, Jacques Bergier, qui est aussi un amateur de Talbot Mundi.
De le connaître, de le fréquenter. Un autre ami, enfin qui était son grand ami, François Le Lyonnais, que j'ai encore mieux connu, disait souvent, toujours même, que sur 100% de ce que racontait Bergier, il y avait 90% pas de balivernes, mais enfin de choses qui étaient très douteuses, et les 10% restants étaient fabuleux, quoi. Et ça m'amuse encore en relisant récemment le texte que Bergier, parce que c'est grâce à Bergier que j'ai connu Talbot Mundi, le texte qu'il lui a consacré dans Admiration, qui est un magnifique ouvrage. Il commence en disant si Talbot Mundi n'avait pas été américain, il aurait mérité d'être anglais, alors qu'il était anglais, justement.
Il était anglais à l'origine, mais il a pris la nationalité américaine. Ouais. Et c'est là où d'ailleurs il a pris le nom de Talbot Mundy, véritablement.
Oui. C'est vrai que sa vie est un roman absolument incroyable, fascinant. Hein.
Mais là, il y a tout ce qu'on aime là-dedans. Hein. supérieurs inconnus, science ancienne, l'Atlantide, les thugs, il y a absolument tout.
Donc, courez pour lire donc Les Mystères de l'Inde aux éditions Rivière Blanche de Talbot Mundy. On termine, hélas, il va toujours, le pauvre Maurice Level est toujours en dernier lieu. Alors, j'en profite de votre passage, François Rivière, pour évoquer Maurice Level, que vous nous avez révélé et que vous avez réinventé en 1977. Petite collection chez Glénat.
Je ne vais pas dire que c'est le hasard. Ce serait d'une modestie ridicule. Mais il se trouve que j'étais tombé sur un ou deux recueils de Maurice Level, de toute façon qui intéressait apparemment pas grand monde. Et j'avais pu rééditer. Je ne sais pas comment j'avais obtenu les droits pour une petite collection que je faisais chez Glénat. Et j'avais réédité deux textes Maurice Level, mais j'avoue que je m'étais pas tellement préoccupé de savoir qui était ce Maurice Level. Enfin, sinon quand même que ayant lu dans ma bibliothèque l'anthologie de André Delorde et Albert Dubeu, Les Maîtres de la Peur, j'avais lu la notice qui lui était consacrée. Je savais qu'il était le cousin de Marcel Schwab et qu'il était mort très jeune, qu'il avait écrit plein de choses en dehors de ses contes.
Il avait signé 1500 nouvelles. On peut signaler, Jean-Luc Rivera, cette publication-là.
Oui, alors Maurice Level, bon, on le connaît pour ses contes du Grand Guignol, Les Oiseaux de Nuit, etc., dont on avait parlé. J'ai découvert que Maurice Level avait écrit quelques contes d'anticipation pour un magazine qui s'appelait Loto et qui, à l'époque, était à la pointe du progrès. Et donc, il faut signaler quand même qu'il y a 7 contes d'anticipation qu'il a écrit dans sa vie et qui sont parus chez Bibliox, donc un petit éditeur qui mérite d'être...
Petit tirage, donc précipitez-vous. Il n'y en aura pas pour tout le monde.
Précipitez-vous, il y a 20 exemplaires en vente.
Voilà, plus à l'heure où nous parlons.
Et je rappelle de nouveau, donc, aux éditions Le Visage Vert, la magnifique édition de Jean-Luc Buard des Oiseaux de Nuit, et puis le dernier numéro du Rocambole, consacré aussi entièrement à Maurice Level, qui méritera bien un jour un numéro spécial, on ne parlera que de lui, Mauvais Genre, en attendant.
Ces Oiseaux de Nuit, parce qu'à force de dire qu'on en parlera, finalement, on dit qu'on en a parlé. C'est ainsi dans Les Mauvais Genres.
On termine cette émission avec Christophe Beer.
Historien et helléniste, Nicolas Cartelet est un jeune auteur prolixe qui compte déjà à son actif deux trilogies fleuves, Time Trotters, hanté par l'énergie pulp et les mauvaises manières du cinéma Grindhouse, et Néaguet, space opéra nourri de mythologie grecque. Petit Blanc, publié au Peuple de Mu, est un court roman ancré dans l'histoire coloniale française dont l'âpreté surprend et tenaille le lecteur. La noirceur étend son emprise sur le narrateur Albert Villeneuve dès les premières pages. 10 mois dans l'insupportable et fétide promiscuité des soutes d'un bateau, une traversée d'agonie qui décime les miséreux. Il y perd sa femme et sa fille. Petit Blanc sera le récit d'une solitude et d'un rêve bafoué. La colonie de Sainte-Catherine imaginée par l'auteur n'a rien de la fable rayonnante construite par l'État français et relayée par le mensonger petit journal. Terrifiant voyage au bout de la nuit, entre l'enfer célinien et l'épouvante kafkaïenne, le récit introspectif de Villeneuve perd toute flamboyance, se révolte en vain contre le déterminisme social et ricane sur la méchanceté administrative. Le colon s'enfonce dans l'inéluctable déchéance, brisé par l'injustice de la loi, l'alcool, l'insomnie et la folie, anéanti par ses illusions et les sortilèges d'un romancier qui l'entraîne dans le fantastique. Le pouvoir colonial se métamorphose en sergent de haine destructrice, guerrier cannibale et immortel qui contamine les tribus noires et fait de la brousse un morne et abject champ de ruines. Nu dans les ténèbres, Villeneuve y rencontre quelques alliés fragiles. Sur l'épaule d'un médecin indigène, un perroquet se révèle disert et philosophe. Car le climat tropical délie les langues, dont celle d'un halluciné soldat régnant sur une clairière de l'Empire, ce mot qu'il prononce avec emphase. Responsable des ventes d'un stock de thon en conserve d'une compagnie bordelaise qui a oublié son existence, il se dit à l'avant-poste de la civilisation en terre sauvage. La tenue journalière de son grand registre le surmène. La fêlure au fond du regard d'acier, ce zélé employé qui n'a jamais croisé la moindre clientèle, à la poésie fiévreuse et pathétique d'un Robert Le Vigan. le périple d'Albert Villeneuve est cruel et se dissout dans une vision fantasmagorique. Nicolas Cartelet n'en fait ni un héros, ni même un anti-héros, mais un damné, un exploité, une ombre assoiffée de rêves, près d'une mare saumâtre et vitreuse, rattrapée par ses antécédents. Il est écrit ici que vous avez des antécédents malheureux. Dès la page 16, le petit fonctionnaire des colonies, compulsant son registre, l'avait enchaîné au désespoir.
Merci Christophe Beer, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission de Mauvais Genre. Je vous en rappelle les sujets de François Rivière, il faut lire d'urgence l'épitaphe pour Alfred Hitchcock, c'est chez Payot. Lire également de Rudyard Kipling, Le Parfum des Voyages, c'est aux éditions Robert Laffont, 2 volumes pour découvrir Talbot Mundi aux éditions Rivière Blanche, Les Maths Magri et Les 9 Inconnus. Maurice Level, Les Oiseaux de Nuit, c'est toujours aux éditions du Visage Vert. Sinon également, c'est Synergie, les comptes d'anticipation de Maurice Level. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Pollery, Eric Boisset, Sam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesne, Philippe Rouillet, Jean-Luc Rivière, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous continuerons notre périple en Asie puisque nous visiterons avec Julien Rousseau et Stéphane Duménildo la formidable, et le mot est faible, exposition Enfer et Fantômes d'Asie au musée Branly à Paris. Et d'ici là, bonne nuit à tous.